Bonjour Yves, au micro-micro de 24 notes secondes pour une nouvelle émission qui ne manquera pas de vous rappeler ou de vous apprendre si vous nous rejoignez ce jour que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale et plus ou moins pertinente les petites images qui bougent depuis quelque part à la fin du 19e siècle. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons rendre honneur à un compositeur né le 13 décembre 1961, donc bien jeune, à Chichester au Royaume-Uni, le dénommé Harry Gregson Williams, qui possède la particularité intéressante d'avoir deux frères, Rupert et Josh, qui sont lui aussi compositeurs. Autant dire, mais à ma connaissance, pas de musique de film, autant dire donc que l'homme est né et a vécu dans une, je dirais, une ambiance sonore et musicale qui n'est certes pas pour rien dans le fait qu'il soit devenu maintenant un des compositeurs qui compte à Hollywood. Et pourtant, l'homme revient de loin puisqu'il a été formé par Hans Zimmer, dont les amateurs de 24 notes secondes savent qu'il ne fait certes pas partie de mes compositeurs favoris. Mais ma foi, il faut bien débuter dans la vie et il faut reconnaître à Hans Zimmer d'avoir donné sa chance à Harry Gregson Williams comme à bien d'autres. Il faut le reconnaître aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans poser quelques problèmes pour les deux ou trois premières musiques que nous allons entendre, puisque elles ont été composées par notre ami Harry Gregson Williams et d'autres compositeurs. C'était la façon d'Hans Zimmer de procéder, c'est-à-dire de mettre plusieurs compositeurs pour un même film, et que le meilleur gagne, mais ce n'est pas forcément facile du coup de distinguer à qui revient quoi. Ma foi, ce n'est pas si grave. L'homme débute sa carrière en 1993 avec un film intitulé White Angel, duquel j'ignore tout, et puis très rapidement, il passe aux choses sérieuses, puisque en 1996, il est déjà à la composition aux côtés de Nick Glennie-Smith. Décidément, il ne pourrait pas avoir des noms un peu moins compliqués. Sur le rock de Michael Bay, du cinéma pour garçons bien lourd, il faut le dire. On le verra ensuite dans un film pour lequel j'avoue j'ai une certaine faiblesse, même si c'est un film pour les petits. Ça s'appelle Le Petit Monde des Borrowers de Peter Hewitt, tourné en 1997. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. On retrouve son âme d'enfant. Et par contre, on va écouter un premier extrait qui, lui, n'est pas vraiment dans le genre âme d'enfant, d'un film du regretté Tony Scott, tourné en 1998, ça s'appelle Ennemi d'État, Enemy of the State in English. Dans les rôles principaux, on retrouve Will Smith, l'impeccable, Gene Hackman, non moins impeccable, et John Voight, qui n'est pas que le père de Angelina Jolie, mais qui a aussi eu une carrière à lui. On va écouter un extrait de cette bande originale et peut-être, je vous débrieferai après dans 24 notes secondes. Ah ben, je vous avais prévenu, c'est du lourd. Un extrait de la bande originale d'Enemy of the States, un film de Tony Scott tourné en 1998, une bande originale co-composée par Harry Gregson Williams et Trevor Rabin, un autre, je dirais, protégé de Hans Zimmer, du coup. Je ne sais pas trop à qui appartient quoi. On va espérer que c'est à Harry Gregson Williams qu'on doit cet extrait très zimmerien, il faut bien le reconnaître, de la partition d'un film qui s'intéressait aux activités de la NSA. Vous savez, cette agence américaine qui ne veut que notre bien, à condition qu'elle puisse entendre tous nos messages, tous nos SMS, lire tous nos courriers mails, etc., etc., etc. Alors en 1998, eh bien, on était encore loin d'imaginer que ce que le film racontait, eh ben, était en dessous de la vérité, en fait. On voyait ce pauvre Will Smith traqué par tous les instruments électroniques possibles, et on peut imaginer que si aujourd'hui il retournait le film, eh ben, ce serait un documentaire, le film, maintenant, puisque 20 ans plus tard, nous y sommes, comme quoi, eh bien, même si c'était de la grosse machine à l'américaine, le film de Tony Scott frappait juste, et que Will Smith, qui remplaçait au pied levé, si on peut dire, Tom Cruise, à l'époque retenu par le tournage du dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, eh bien, Will Smith se débrouillait plutôt pas mal, tandis que Gene Hackman était un méchant, mais alors de chez les méchants. Mais là encore, 20 ans plus tard, si Gene Hackman jouait ce genre de rôle de méchant, eh bien, ça passerait aussi pour un documentaire, dis donc, comme c'est rigolo. Voilà, ce jour, donc, nous évoquons la carrière d'Harry Gregson Williams, qui était encore dans ses années 90, début 2000, accolé à d'autres compositeurs. J'ai hésité à vous passer un extrait de la bande originale des Aventures de Tigrou, The Tiger Movie, de June Falkenstein, tourné en 2000. Et puis finalement, je me suis décidé pour Chicken Run, co-signé de ces génies intitulés, Nick Clarke et Peter Lord, les gens qui sont derrière Wallace et Gromit, que évidemment, vous n'avez pas pu oublier, cette technique d'animation si particulière à base de pâte à modeler, si je simplifie évidemment la chose, qui permet de tourner royalement entre 2 et 3 secondes de film par jour. Donc je vous laisse imaginer la durée qu'il faut. Et donc, après avoir très largement mis en scène dans des courts ou moyens métrages d'animation, les aventures de Wallace qui mange du cheddar et de Gromit qui est un chien très intelligent même s'il ne parle pas, je dirais qu'il est un chien très intelligent qui, du coup, ne parle pas, eh bien, les compères Nick Park et Peter Lord se sont essayés à un tout autre genre avec Chicken Run, qui retrouve évidemment le même procédé d'animation. Poulets en fuite, ça s'appelle chez nos amis québécois, comme ils sont rigolos, nos amis québécois, qui racontent donc eh bien, l'histoire de Ginger, une poule pondeuse qui essaie de sortir de sa triste condition. L'ensemble est ravissant à souhait, goulayant à souhait. Évidemment, il n'y a pas d'acteur dans le film, mais il y a des voix qui sont de plus en plus maintenant dans les films d'animation des gens connus. Et derrière les voix de Chicken Run, en anglais bien sûr, il y avait entre autres Mel Gibson. C'est vous dire qu'on avait là encore du lourd. Là encore, la partition, eh bien, elle est co-signée par notre cher Harry Gregson Williams et par John Powell. Ma foi, je ne sais pas à qui appartient quoi, mais ça ne va pas nous empêcher d'en écouter un extrait dans 24 notes, seconde. Idéal pour les matins un peu moroses ou les lendemains de cuite, un extrait de la bande originale de Chicken Run, un film de Nick Park et Peter Lord, une musique co-signée par Harry Gregson-Williams, notre héros de ce jour, et puis quelques autres compositeurs issus du vivier de Hans Zimmer, alors salornier du côté du pont de la rivière Kwai ou de la Grande Évasion, musicalement, mais ce n'était pas un hasard, puisque notamment pour ce dernier film, La Grande Évasion, eh bien on peut considérer que Chicken Run, c'était la Grande Évasion chez les poules, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Un moment très très réussi de ces génies, je le répète, Nick Park et Peter Lord, heureusement qu'il y a sur cette planète des gens comme cela. Tout à l'heure j'ai parlé de Wallace et Gromit, mais j'aurais aussi pu parler de Shaun le Mouton, qui est une petite merveille. Alors d'abord des petits films de 10 à 15 minutes pour Gulli, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a eu le long métrage Shaun le Mouton qui était excellent, il n'y avait pas une seule parole. Vous vous rendez compte maintenant, un film dans lequel il n'y avait pas un seul mot de dialogue, donc tout de suite universel. Et puis le rire aussi c'est universel. Bref, précipitez-vous pour découvrir, si ce n'est pas déjà fait, les œuvres complètes de Nick Park et Peter Lord. Quant à notre ami Harry Gregson-Williams, alors dans un genre tout à fait différent, je m'en voudrais de ne pas mentionner, pour les aficionados de ce genre de choses, il y en a, que l'homme compose aussi des musiques de jeux vidéo. Ben oui, il y a des musiques maintenant pour les jeux vidéo dont le budget de production est parfois égal à celui de certains films à gros budget. Et pour les amateurs, donc, je signale que Harry Gregson-Williams était à la manette pour les versions 2, 3, 4 et 5, je n'y crois pas, de Metal Gear Solid, j'espère que je le dis correctement, et puis aussi on l'a vu aux manettes pour la bande-son, c'est comme ça que ça s'appelle, de Call of Duty, ça je vois à peu près ce que c'est, 4 et 5, en tout cas ça s'appelle Advanced Warfare, je suppose que c'est le 5 ma foi. Là encore les amateurs me pardonneront ou feront ce qu'ils voudront. De toute façon, on va écouter un extrait d'une autre bande originale, en l'espèce celle d'un film qui retrouvait le gag de la cabine téléphonique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un film dans une cabine téléphonique ? Eh bien oui, en 2001... Plutôt en 2002, Joel Schumacher, bien connu, Schumacher peut-être comme vous voulez, bien connu pour être un gros réalisateur de blockbuster, décida de tourner Phone Game, qui avait la particularité, eh bien, non pas, soyons justes, de se passer entièrement dans une cabine téléphonique, mais en tout cas de se passer à côté d'une cabine téléphonique, ce qui était à vrai dire un exploit plutôt bien réussi en fait, et qui permettait à Colin Farrell, eh bien, de percer. C'est sans doute l'un des rôles qui lui a permis de devenir la grosse vedette qu'il est maintenant. Le film était assez distrayant, et d'autant plus distrayant que court, et la musique en était évidemment signée, cette fois tout seul, c'était un signe de reconnaissance à Hollywood, par Harry Gregson-Williams, et on en écoute un petit extrait dans 24 notes secondes. Thank you. La partition tout en underscoring d'Harry Gregson-Williams pour le Phone Game, au Québec, la cabine, de Joel Schumacher, ou Schumacher comme vous voulez, donc un film réalisé en 2002 avec Colin Farrell dans le rôle principal et dans des rôles un peu moins principaux puisque Colin Farrell, il était toujours ou presque à l'écran. Kiefer Sutherland et aussi ce cher Forest Whitaker, signalant deux choses. D'une part que le scénario du film, il est dû à Larry Cohen qui nous a récemment quittés, donc le nom ne vous dira peut-être rien, mais dans les années 70, l'homme fut le réalisateur de quelques films horrifiques à petit budget, mais à très gros succès, notamment Le Monstre est vivant, 1, 2 et 3, dans mon souvenir. Et puis, dans les années 60, eh bien, Larry Cohen, c'est l'homme qui était derrière Les Envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle principal. Alors évidemment, ça ne dira rien aux plus jeunes, mais les autres se souviendront de cet homme qui s'égare et qui découvre que les extraterrestres ont déjà débarqué et qu'ils ont un petit doigt, si, si, celui-là, qu'ils ne peuvent pas replier. C'est comme ça qu'on les reconnaît, regardez, il y en a encore plein aujourd'hui dans le tramway, dans les banques, à la télé, etc., etc. Ils sont là, ils sont parmi nous. Voilà, on va rester sur ça, je vous aurais prévenu, et on va passer à, cette fois à un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2005 par le frère de Tony Scott, déjà cité, et qui nous a quittés de façon tragique, peut-être le savez-vous. L'homme s'est tout simplement jeté du haut d'un pont quelque part à Los Angeles. Ma foi, il faut croire qu'on peut être au sommet de sa carrière hollywoodienne est malheureux quand même, et heureusement pour nous, heureusement pour lui, ce n'est pas le cas de son frère, le bien connu aussi Ridley Scott, qui en 2005, l'homme a touché un peu à tout, et bien en 2005, s'était essayé à une fresque historique qui se passait quelque part à la fin du XIIe siècle, donc, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, un peu avant la troisième croisade. Et on voyait donc de combats magnifiquement filmés avec dans les rôles principaux Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons et quelques autres. Donc le haut de gamme, je dirais, du cinéma... non pas américain, mais plutôt anglais d'ailleurs. Et pour l'occasion, eh bien, Harry Gregson-Williams était vraiment au sommet, et il y reste depuis, puisque c'est lui qui composa la bande originale de ce film, dont je crois avoir oublié de vous donner le titre. Ça s'appelait en anglais « Kingdom of Heaven », en France « Kingdom of Heaven », et au Québec « Le Royaume des Cieux ». Ah, ils sont rigolos, ces Québécois. Allez, on écoute dans 24 notes, seconde. Une musique d'inspiration évidemment moyenâgeuse pour le Kingdom of Heaven de Ridley Scott, un film de 2005, une musique d'Harry Gregson-Williams, qui était notre héros de ce jour, comme à chaque fois j'ai été un peu trop bavard. J'espère que vous m'en excuserez. Du coup, on va se quitter très rapidement en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2015 par ce même Ridley Scott, avec Matt Damon dans le rôle vraiment principal, puisque en français, le film s'appelait Seul sur Mars, et c'était lui qui était seul sur Mars. En anglais, ça s'appelait The Martian, une histoire de science-fiction tout à fait goûteuse où l'homme se trouve abandonné sur Mars, mais l'homme a de la ressource. C'est Matt Damon en même temps. Et du coup, il finira par s'en sortir. Ah, je vous ai spoilé. Évidemment, la musique, elle est d'Harry Gregson-Williams en 24 notes. Seconde. Ah, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, si vous voulez.